Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural. Des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée. Reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Bien, bonjour à tous et bienvenue sur Okapi. La fréquence de la paix, nous abordons à présent notre premier thème du jour. On parle du trafic illicite d'enfants. C'est un phénomène fréquent en République démocratique du Congo, malgré les diverses interdictions. Les trafiquants utilisent des multiples ruses pour obtenir les enfants sous couvert de charité et autres élans philanthropiques. Et ces enfants sont vendus sous d'autres cieux comme esclaves domestiques et esclaves sexuels et autres. Alors quels sont les sanctions prévues par la loi congolaise en rapport avec ce trafic d'enfants? Nous recevons aujourd'hui, pour en parler, M. Kom Musuluku, assistant du président du tribunal pour enfants de Kinshasa. M. Kom, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, la première question est de savoir comment la loi définit le trafic illicite d'enfants.
Ok, bien merci de m'avoir accordé la parole et surtout invité dans votre chaîne. Ce que nous devons d'abord retenir, c'est que ce qui est interdit, ce que nous appelons trafic d'enfants, actuellement, avec l'avènement de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, le législateur congolais, dans l'article 162, utilise plus le terme vente d'enfants plutôt que trafic d'enfants. Et en réalité, cet équipolon est interchangeable. Mais puisque nous sommes légalistes, nous préférons nous conformer au concept utilisé par le législateur, la vente d'enfants.
Alors comment la loi définit la vente d'enfants?
Oui, la loi définit la vente d'enfants comme étant tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'enfants de toute personne ou de tout groupe de personnes à un autre groupe contre rémunération. Et je souligne le substantif rémunération ou tout autre avantage. Et ça, c'est l'article 162. Il faut comprendre par là que la vente est un acte qui, en principe, est juridique, mais dans le cas où ça porte sur une personne humaine, étant donné que le droit commercial ou la législation commerciale interdit la vente des organes du corps, de toute partie du corps et a fortiori du corps humain, parce que l'être humain est hors commerce, alors là il s'agit d'une vente illicite. C'est ainsi que généralement on utilisait le terme trafic. Et le législateur a consacré, en ce qui concerne les enfants, le terme vente.
Est-ce que la loi a défini les formes de vente ou les formes de trafic qui existent?
Oui, le véritable terme en droit commercial, c'est le terme vente, qui est un acte juridique, mais qui porte sur des objets, hein, ou des services, c'est-à-dire sur des biens et services. Voilà ce qui peut être vendu. Mais en ce qui concerne les êtres humains, le législateur congolais les a mis hors commerce. Donc l'être humain ne peut jamais faire objet du commerce. Voilà.
Voilà, l'être humain ne peut jamais faire l'objet du commerce. Alors quelles sont les sanctions prévues si une personne ou un groupe des gens sont surpris en train de faire ce genre d'activité?
Oui, en cas de vente d'enfants, le législateur congolais a prévu la peine de servitude pénale de 10 à 20 ans. De 10 à 20 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais. C'est-à-dire que c'est puni très sévèrement.
Oui, c'est puni très sévèrement par la loi. Vous avez dit de 10 à 15 ans.
De 10 à 20 ans, à 20 ans.
Des 10 à 20 ans. Alors, c'est puni des 10 à 20 ans. Et comment peut-on dénoncer? Parce qu'avant de punir, il faut qu'il y ait peut-être des gens qui dénoncent, qui signalent qu'il y a des gens ou des groupes de gens qui font ce genre d'activités. Alors, comment cela doit se passer exactement?
Vous voyez, quand le législateur dispose à l'article 162 que le contre venant où l'infracteur, le délinquant, la personne qui viole la loi, en son article 162, sera puni de 10 à 20 ans, ça veut dire que ça doit passer par le juge. Et ici, il s'agit du juge de grande instance, c'est-à-dire nous sommes dans la partie portant protection pénale. Parce qu'ici, il faut savoir que lorsque nous évoquons enfants, on doit voir la loi qui les protège, c'est-à-dire la loi portant protection de l'enfant. Mais il existe dans cette loi deux parties. Il y a une protection, trois protections. La protection sociale, ça ne nous concerne pas. Mais la protection judiciaire, ainsi que la protection pénale. Dans la protection judiciaire, il s'agit de l'enfant comme auteur de ce qu'on appelle infraction, mais qu'en réalité nous appelons manquement qualifié d'infraction. Et la question que vous venez de poser et le thème que nous sommes en train de traiter se rapporte à la protection pénale, c'est-à-dire un adulte infracteur, un adulte délinquant, un adulte qui viole la loi. Et là, le juge peut être saisi par les agents protecteurs d'enfants, le juge peut être saisi par toute personne, parce que nous avons tous, en tant que citoyens, l'obligation de veiller à l'ordre public. Toute personne peut dénoncer.
D'accord.
Et la non-dénonciation constitue une infraction dans cette loi portant protection de l'enfant.
Alors, monsieur, comme vous avez suivi dernièrement, les tribunaux de paix de Kinshasa, Gombe a condamné à 6 mois de prison une ressortissante belge pour déplacement illicite d'enfants. Est-ce qu'on peut appeler ça également vente illicite d'enfants?
Non. Quand il y a déplacement illicite d'enfants, ça équivaut à l'enlèvement. C'est-à-dire un déplacement qui n'est pas autorisé par le juge. Parce qu'ils nous vont mettre en tête que l'autorité suprême protectrice d'enfants, c'est le juge pour enfants, JPE, le juge pour enfants. Et aucune situation d'un enfant qui est en danger, qui est en péril, dont les droits sont violés, ne doit échapper ou ne peut échapper au juge pour enfants. Alors là, ça équivaut à un enlèvement, ce n'est pas autorisé. Il n'y a que le juge qui peut décider du déplacement, de l'enlèvement. L'enlèvement est un terme impropre parce que le juge, quand il agit, c'est dans la légalité.
Oui.
Mais c'est lui qui permet que l'enfant quitte son milieu, son cadre idéal, qu'est le milieu familial. La famille, c'est le cadre idéal. Voir les articles 17, 32, 1731, pardon, de la loi portant protection de l'enfant. Là, le législateur dit que la famille est le milieu idéal, le cadre idéal où l'enfant doit évoluer en vue de son épanouissement. Alors, ne peut faire déplacer un enfant que le juge, parce que c'est lui qui va apprécier grâce à son assistant ou à l'assistant social, qui est le maillon fort et transversal dans la protection de l'enfant, et le professionnel autorisé du ministère des Affaires sociales, c'est lui qui apprécie grâce à son suivi psychosocial l'évolution, la situation de l'enfant. Et il soumet son rapport au juge pour enfants.
Qu'est dit la loi congolaise à propos du trafic d'enfants, que vous appelez vente d'enfants? Nous venons de recevoir également dans ce studio Maître Ruffin Louko, il vient de nous rejoindre. Il est juriste, chercheur et écrivain en droit. Maître Ruffin, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama, et bonjour à tous nos auditeurs.
Voilà, nous avons en ligne, on vous retrouve dans quelques instants, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Félix de Kananga et Ogi Bendelo de Kikwita.
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiookapi.net.
Félix, vous êtes à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Bonjour. Félix, bonjour. Il n'est plus en ligne. Ogi Bendelo de Kikwita, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à nos invités. Bon début de semaine à tout le monde.
Et on vous écoute, Ogi.
Merci Jody. Par rapport au sujet, je voulais poser une question. Une fois, lorsque j'étais dans les Kassai occidental, principalement à Chikapa, il y avait une organisation non gouvernementale, on prenait charge des orphelins. Alors, après avoir pris les soins des orphelins, s'ils terminaient les études primaires, on les envoie dans des pays étrangers. Alors là, les familles de ces enfants-là n'avaient plus d'informations sur les enfants. On ne savait pas dans quel pays ils étaient exactement. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question à notre invité. Est-ce que par là, on peut dire aussi que c'est le trafic illicite des enfants indirectement ou comment? C'était là ma seule question aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio Capi.
Merci Yogi. Maître Ruffin, vous venez de nous rejoindre. On parle aujourd'hui du trafic d'enfants. Une question, la question d'Yogi. On prend en charge, il part d'une organisation au Cassé Occidental qui prend en charge les enfants et après des orphelins et puis les envoie ailleurs et les parents n'ont pas d'informations sur leurs enfants. Il s'agit-il d'un trafic d'enfants, d'une vente d'enfants?
En tout cas, s'ils n'ont pas l'autorisation du tribunal pour enfants, et s'ils n'ont pas l'autorisation écrite et certifiée des parents, n'est-ce pas? Donc, les signatures ont été légalisées. Donc, ces trafics-là, si ces enfants doivent sortir de la frontière, c'est un trafic illicite d'enfants. Donc, les mesures qui ont été prises ces derniers temps sont consécutives à des lois qui se sont suivies. La loi de 2006 portant répression des violences sexuelles et la loi de 2009, portant protection de l'enfant. Donc, ces deux lois-là ont fait comme conséquence, c'est que désormais, parce qu'on s'est rendu compte que dans les violences sexuelles en RDC, parmi les victimes importantes, ce sont les gens de la catégorie de moins de 18 ans. Alors, il fallait donc prendre des mesures. C'est pourquoi vous avez vu non seulement la DGM dire que non, désormais, toute adoption par un expatrié, c'est terminé.
Adoption au Congo. Un moratoire sur les adoptions internationales.
Donc, adoption au Congo, oui. Adoption au Congo par des Congolais, oui. Mais adoption par des expatriés, terminé. Alors, ça, ce sont les mesures pour la protection de l'enfant. Donc, vous parliez également ici, n'est-ce pas, de ces procès-là qui a eu lieu. Effectivement, cette dame-là, qui est aujourd'hui à Makala, est tombée devant le tribunal et n'en revenait pas, que les tribunaux congolais soient en mesure de faire ce qu'ils ont fait. Ça s'est passé en flagrant, c'est parce qu'il avait les documents, mais il a voulu contourner, n'est-ce pas, les
mais il ne s'agit pas d'une vente ou d'un trafic d'enfants.
Non, il a été condamné pour trafic.
Pour trafic.
Pour trafic, oui, il a été condamné pour trafic. Ça veut dire l'acte qu'il a fait de vouloir sortir avec l'enfant dans ces conditions-là, eh bien. Donc, il avait des documents, mais il n'a pas voulu se conformer. Comme il savait que la DGM a une consigne nette, il a voulu
Elle a utilisé la corruption.
Évidemment, la corruption...
Il y a certains agents qui étaient corrompus.
Qui ont mordu à la maison. Bon, évidemment. Et donc, c'est toujours... C'est-à-dire, il y a des infractions comme ça qui traînent derrière les cortèges d'autres infractions. Et c'est pourquoi donc, la République est mobilisée que désormais, les trafics dans ces conditions-là, des enfants congolais ne se tolérera plus et que donc là-dessus, la tolérance est également zéro.
Voilà, M. Combe, vous êtes toujours en ligne.
Je suis en ligne.
Oui, on a suivi dernièrement qu'il y a beaucoup d'enfants congolais étaient amenés au Liban. Il y a eu un trafic.
Principalement le Liban et l'Inde.
Et l'Inde, oui. Beaucoup d'enfants congolais qui sont allés là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces personnes ou ces réseaux ont été sanctionnés?
Les réseaux?
Oui, les réseaux des trafiquants. Est-ce que on est arrivé à démanteler tous ces réseaux et à sanctionner?
Bien, merci. Il existe ce qu'on appelle une agence internationale d'adoption qui se veut être un égrégor, mais sur le plan physique, qui permet de mettre en contact les états d'origine des enfants adoptés ainsi que les familles adoptives, dans le cas où les adoptions seraient régulières. Alors, pour pouvoir détecter, on fait tout pour pouvoir mettre le mécanisme de suivi. Et en pareil cas, il faut se référer aux statistiques pour voir combien de cas ont été sanctionnés. Parce que pour être sanctionné, il faut mettre la main sur les auteurs, il faut les découvrir. Mais souvent, ils sont très malins. Ils ont développé aussi des mécanismes comme Lombroso, Henri Garofalo ont eu à dire, les criminologues, que les criminels développent toujours de nouvelles stratégies pour pouvoir se mettre à l'abri de la répression. Néanmoins, pour ceux qui sont découverts, les sanctions sont d'application. Et en tant que juriste, j'aimerais parler sur base des statistiques, ce dont malheureusement je ne dispose pas illico presto.
Voilà. Et quelle est la procédure à suivre pour adopter un enfant, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle vente d'enfants, Maître Louko?
Oui, mais la procédure est désormais rigoureuse. La procédure, c'est que d'abord, il y a des conditions de forme qui sont posées par la loi. C'est que il faut
d'abord le consentement des parents.
Le consentement des parents. Et il ne faut pas que chez nous au Congo, il ne faut pas que l'adoptant soit célibataire, n'est-ce pas? Et l'adopté lui-même célibataire, l'adoptant célibataire. Donc ça, ce sont des conditions interdites. Et puis, on préfère que ça ne soit pas nécessairement le même sexe. parmi les conditions. Donc, un homme qui adopte un homme, une femme qui adopte une femme. Donc, il y a déjà des conditions de départ qui font que l'on soit regardant et vigilant pour que derrière l'adoption ne se passe
autre chose.
Que l'adoption ne soit qu'un écran de fumée, alors qu'il y a autre chose, comme la fois passée, ceux qui ont été arrêtés ont été interpellés parce que cette histoire d'adoptant pour un autre adopté. Donc ça veut dire, lui adopte, donc c'est comme un acheteur
pour qui va
aussi
revendre.
Voilà. Alors pratiquement, oui, c'est ce qu'il faut. Donc ça veut dire, ils viennent ici parce qu'ils ont des réseaux ici, sont connus ici. Leurs clients, c'est comme même dans les secteurs de mines, ils achètent une carrière pour autrui. Mais lui, comme il a un crédit ici au Congo, il achète à moins cher. Donc les trafiquants là, qui sont connus ici, ils opèrent ici, lui fait tout ça à son nom. Et pourtant, il est en train de le faire pour autre. Ce qui fait que nos services d'immigration ont eu les statistiques que tous ceux qui adoptent se retrouvent finalement avoir adopté pour autrui. Et c'est ce qui amène la conséquence qu'aussitôt que la personne est à l'étranger, trou noir, il n'y a plus de communication, la personne disparaît, parce qu'effectivement la personne qui a adopté ici,
c'est un intermédiaire,
n'est pas les c'est un intermédiaire. Donc c'était le trafiquant, c'est un commissionnaire qui lui est connu ici, mais à l'étranger la personne disparaît, qu'on n'a plus de traces. En conséquence, entre autres, parce qu'on ne parvenait toujours pas à maîtriser toutes ces filières là, il fallait donc interdire. Donc la procédure commence par le consentement des parents, et ça se termine toujours
Le tribunal.
D'accord. Donc, si vous n'avez pas le document du tribunal, vous n'avez aucune autorisation.
Vous êtes un trafiquant,
vous êtes un criminel.
Nous avons deux auditeurs en ligne. Sadi Ngembo est à Matadi et Boniface Yamba à Kalemi. Sadi Ngembo, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue aussi l'invité. J'ai une question, mais par rapport à tout ce qui s'est déjà dit dans l'émission, j'ai certaines préoccupations qui deviennent prioritaires par rapport à ma question. Premièrement, je commence. Quand l'invité parle que la DGM a pris une décision de sursoir compétitif, est-ce que la DGM peut prendre des décisions ou la DGM fait appliquer seulement la loi? La DGM seule prend une décision que non, le trafic, le déplacement des enfants à l'extérieur du pays, fini, niet. Je ne pense pas que la DGM a ce pouvoir-là. Ça, c'est un. Deux, je commence à avoir des confusions par rapport peut-être au sujet de l'émission. Il y a trafic d'enfants ou il y a un problème d'adoption qui ne respectent pas les normes. Parce que quand on parle de trafic, ça signifie que c'est un groupe d'enfants qu'on commence ou c'est un réseau qui, apparemment, on suit les informations à tout moment par rapport à ce qui s'est passé au Tchad. Au Congo, ça ne se passe pas. Au contraire, il y a beaucoup plus de dépassements au niveau de l'intérieur. Quand les gens prennent des enfants au village en donnant quelque chose, non, pour me mettre dans la ville, parce que ça, la rabis au bois. Au Congo, à l'intérieur du pays, c'est plus que même ce que vous pensez qui se passe entre le pays et l'extérieur. Troisième.
Alors, vous voulez,
cette dame-là, on a donné l'exemple, la dame blanche-là.
Oui, ça dit. Vous voulez dire que même à l'intérieur du pays, il y a des trafics d'enfants?
Oui, c'est plus important même que par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Donc, quand on prend les enfants qui viennent du village, on donne quelque chose à leurs parents. Ils viennent à Kinshasa, ils viennent à Matadi, ils viennent à Lubumbashi, ils viennent comme ceci, comme cela. C'est beaucoup plus important. Malheureusement, on n'a pas de services statistiques dignes de son nom dans ce pays.
D'accord.
La troisième préoccupation, la dame là qui a été sanctionnée, en réalité, elle n'était pas sanctionnée parce qu'elle a adopté un enfant. Cet enfant a été adopté conformément à la loi. Donc ça c'est un point à souligner, cet enfant-là a été bel et bien adopté. Et quand il est adopté, normalement il a la nationalité de cette personne-là qu'il a adoptée. Donc normalement sa maman est en prison, et cet enfant-là normalement n'est plus congolaise, parce qu'elle a été adoptée conformément à la loi. Mais maintenant son parent, en le faisant déplacer, il n'a pas respecté les règles pour le déplacement. Mais l'adoption est claire et nette.
D'accord, ça dit, donc vous précisez qu'il ne s'agit pas d'un trafic d'enfants parce que l'adoption a été faite en bonne et due forme.
En bonne et due forme, mais maintenant pour se déplacer avec l'enfant, la femme là n'a pas respecté le principe normal.
D'accord, merci, les invités vont répondre tout à l'heure. Boniface Yamba, vous êtes à Kalemie, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous parlons du trafic illicite d'enfants, quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup. Moi j'avais une question que je voulais poser à notre invité. En fait, j'ai un témoignage. Moi, j'étais dans un camp de réfugiés à Tanzanie. Alors là, il y avait un organisme qui venait juste dans les camps et qui recrutait les enfants orphelins pour les amener dans des pays étrangers à travers l'Organisation des Nations Unies. Alors, je voulais poser la question de savoir, est-ce que peut-on dire que ça, c'est un trafic? Parce que ces organismes-là venaient juste prendre des enfants et les amener en Europe, en Australie, dans des pays étrangers comme ça.
Et on les amenait là-bas pour quel motif, hein?
Bon, juste pour... parce que ces orphelins-là, ils n'avaient pas des personnes qui pouvaient les prendre en charge. Alors, ils voulaient les prendre en charge pour qu'ils puissent aller étudier. Et jusque-là, ces enfants-là ne sont jamais rentrés dans les pays.
Et les, même, et, les parents, pas, et les parents n'ont pas des, oui. Et leurs parents n'ont aucune suite.
Oui.
Et leurs parents n'ont aucune information, aucune suite par rapport à ces questions. Ils sont devenus les enfants.
Ils n'ont aucune information parce que depuis qu'ils sont partis, on n'a pas de leur information.
D'accord. Merci. Je vais d'abord demander à M. Kom Moussoulou, qui est assistant du président du tribunal pour enfants de Kinshasa. Vous avez suivi les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, parlant de la DGM, c'est, elle peut prendre une décision, etc., pour interdire la sortie des enfants. Il s'agit là, non pas d'une confusion avec le rôle du législateur, non, non. Mais là, la DGM est en train d'agir en tant que police administrative. Donc, il fait la police administrative, c'est-à-dire elle prend des mesures en exécution d'une décision de la hiérarchie en vue de protéger justement les enfants contre ceux qui violent la loi en recourant à de telles pratiques illicites. Donc là, il n'est pas question de croire que la DGM est incompétente. C'est en vertu de la mission confiée administrativement pour la protection de l'enfant. Et c'est ça que j'appelle la police administrative.
Et M. Sadi nous dit qu'à l'intérieur même du pays, il y a les trafics, la vente d'enfants s'effectue même dans le pays.
Oui, oui, dans le pays. C'est-à-dire, la loi prévient, la loi prohibe, mais il y a maintenant les attitudes des individus qui peuvent être soit conformes, soit non conformes. Alors, la question n'est pas à ce niveau-là de constater qu'il y a des gens qui violent la loi, mais que faire en cas de violation? Le législateur a prévu des sanctions. S'ils violent la loi en procédant de cette manière et qu'ils échappent à la vigilance de l'autorité compétente, devant ou pouvant réprimer, là c'est une autre question. Mais même si ça se fait au niveau de l'intérieur, cela ne veut pas dire que la pratique est légitimée. Non, c'est sur toute l'étendue du territoire de la République que s'applique la loi pénale.
D'accord, nous allons accueillir Elodie qui nous appelle de Guémena dans la province de l'Équateur. Elodie, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à nos deux invités. J'ai aussi des questions. Chacun devait répondre à l'une. Donc, le maître, il va répondre à l'une et l'autre, c'est un autre invité qui répond au téléphone. Premièrement, je voulais commencer par parler des cas de ma petite sœur. Ici, à Guémena, on a un organisme qu'on appelle Vision Mondiale. Vision Mondiale, là, par les travers de la communauté de Péki, ils ont des partenaires à l'Europe. Et ces partenaires-là demandent d'avoir d'amis de petits enfants de moins de 10 ans. Pour amis, ils envoient des photos, ils envoient des colis. Puis à la fin, on va dire que ces enfants-là doivent aller là où leur ami se retrouve dans les pays. Pour le cas de ma petite sœur, son ami se retrouve en Belgique là.
Et son ami à quel âge?
C'est une grande dame. On n'a même pas sa photo.
Oui.
Elle va voir régulièrement des colis. Elle paye les frais scolaires. Elle paye même les malades. Elle supporte à travers cette communauté-là. Maintenant, je voulais poser la question pour connaître, à l'invité qui répond au téléphone-là. Si, à la fin, quand il va demander que cet enfant-là parte là où elle est, parce qu'ils sont déjà des amis, ils lui envoient des colis, tout. Ça, c'est pas une sorte de trafic. Et deuxièmement, je voulais aussi poser la question de connaître pourquoi notre État ne peut pas interdire seulement l'adoption des enfants par les étrangers et puis par les Congolais qui vivent aussi à l'extérieur de notre pays. Il ne peut pas autoriser seulement il peut autoriser l'adoption que par les nationaux vivant au pays pour permettre qu'on suive l'état des enfants qu'on a en train d'adopter. C'est ça là mes questions.
D'accord, merci, Maître Ruffin.
Bon, merci beaucoup, merci Elodie. Mais par rapport au premier intervenant, il a insisté en disant que non, la dame qui est en prison a adopté régulièrement et que est-ce que la DGM a le pouvoir et la compétence? Non, le collègue a déjà répondu, mais je précise que la DGM effectivement a le pouvoir parce que c'est elle qui gère les sorties et les entrées du territoire national. C'est la DGM qui décide. C'est vrai, elle est dépendante du ministère de l'Intérieur, mais la deuxième a une autonomie de décision en ce qui concerne l'immigration et l'immigration. Donc, si ces questions-là, la deuxième fait son travail. Mmh. Deux, monsieur, vous n'avez pas reçu l'information que la deuxième avait déjà à la sellette la dame. Pas seulement par rapport à cet enfant-là, mais par rapport à d'autres situations. La deuxième avait des informations sur son comportement. Et c'est la deuxième même qui avait l'information que ce trafic, en fait, cette adoption-là, l'avait été pour autrui.
L'adoption, parfois, se confond avec la vente d'enfants.
Oui, mais évidemment. On adopte, c'est comme le blanchiment d'argent. Peut-être prochainement, on en parlera. Le blanchiment d'argent, ça veut dire, c'est une couverture. La personne peut construire une école, un hôpital. Ça, c'est une œuvre qui semble être, n'est-ce pas, une œuvre propre. Mmh. Mais c'est un blanchiment. Ça veut dire, on a trafiqué de la drogue, on a été corrompu à grande échelle, et on construit une école, on construit un hôpital. C'est dans le même sens. Ça veut dire, on est derrière une opération de trafic,
couvert par l'adoption.
Couvert par une procédure régulière. Donc oui. Voilà un peu, madame. Donc, c'est la précision que vous devez avoir par rapport, n'est-ce pas, à ces choses. Donc, couvert par la procédure normale, adoption, passer par les tribunaux, tout ça. Mais derrière l'adoption, il y a le trafic. Alors, par rapport à Elodie ou bien par rapport d'abord au...
Il y a Boniface de Calimi qui a parlé du recrutement des enfants en Tanzanie.
Dans les cas des réfugiés.
Des réfugiés, bon, voilà, non, puis on les amène en Europe.
Vous avez compris, oui Guy. Jody, ne faisons pas la confusion. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est exactement dans les cas des réfugiés. Parce que dans les cas des réfugiés, la communauté internationale se déploie pour intervenir, pour assister des misérables, pour assister des nécessités qui ont été déplacées massivement, qui se trouvent dans des camps, qui n'ont pas de logis, qui n'ont pas. Alors, c'est toutes les agences des Nations Unies, les agences caritatives qui se déploient.
Les ONG.
Et là-dedans, les ONG de toutes sortes. Mmh. Et là-dedans, évidemment, les gardiens du cas dans la plupart des camps, c'est le HCR. Alors, évidemment, tous les organismes qui viennent intervenir, parce que je me rappelle, vous vous rappelez, en 94, j'étais aussi administrateur d'un cas de réfugiés, Kamugunga à Goma. Alors, donc, je sais au moins comment ça se passe, ainsi qu'autre organisation. Bon, il y a des agences caritatives qui, c'est vrai, sont animées par la volonté d'assister les orphelins, enfants, oui. N'est-ce pas, et à les amener dans des familles plus ou moins aisées en Occident en général. Mm-hmm. Mais malheureusement, les habits, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Tchad. Donc, au départ, c'était déjà bien intentionné. Et pourtant, ils étaient au service de la mafia, n'est-ce pas, du trafic d'enfants.
C'est avec l'affaire de l'Arche de Noé.
L'Arche de Noé, c'est ce qui s'est passé au Tchad, n'est-ce pas? L'Arche de Noé, et donc, au Tchad, à la frontière avec le Soudan.
C'est des Zoé ou des Noé?
L'Arche de Zoé.
Des Zoé.
Ah, pas de Noé. L'Arche de Noé, c'est une église. L'Arche de Zoé, c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc,
même en Haïti, il y a eu des situations comme ça. Oui.
Lorsqu'il y a eu après la calamité qui a frappé l'Haïti. Oui. Donc, ça veut dire qu'on doit être vigilant. C'est évidemment, malheureusement, dans des cas de réfugiés, la plupart des fois, l'État ne contrôle plus ses citoyens. C'est sur les agences, notamment les ACR. Mais évidemment, parce que c'est la communauté internationale, la police, Interpol, est souvent intervenue pour s'assurer, n'est-ce pas, de la transparence et surtout de la destination finale de ces enfants-là qui sont puisés dans des cas de réfugiés, c'est-à-dire dans des cas de vulnérabilité totale. Alors, ces enfants-là sont à la merci. Et d'ailleurs, tous les trafiquants des êtres humains, ceci, les font dans des cas de réfugiés parce que les cas de réfugiés rendent encore les personnes vulnérables. Déjà, ils étaient vulnérables dans leur famille par la pauvreté, mais dans les cas de réfugiés, c'est encore pire. Ce qui fait qu'ils sont totalement à la merci de ces gens-là. Donc, pour lui, tout simplement, que non, on doit faire le tri et c'est la communauté internationale, notamment au travers des agences des Nations Unies, qui doivent veiller parce que ce sont elles qui contrôlent les camps des réfugiés.
Monsieur, comme vous avez suivi, Elodie a posé la question, demande à l'État d'interdire clairement l'adoption des enfants par les étrangers et qu'on autorise l'adoption au sein du pays parce que là, on sait contrôler, voir comment les enfants évoluent.
C'est comme on l'a fait ici, on l'a fait également, n'est-ce pas, en Chine. Mais non,
un instant. Monsieur, comme vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne, je suis parfaitement bien.
D'accord, je reviens à vous.
Je voudrais dire autrement, ou en d'autres termes, ce que l'estimé confrère de Ruffin Louko, que je salue vraiment, et il va me reconnaître parce que j'ai été dans son cabinet.
Merci beaucoup.
Je le félicite parce qu'il écrit beaucoup, il nous honore, nous Congolais. Je dis que l'adoption est un voile pudique.
Un voile pudique.
Voilà. Utilisé par les délinquants, c'est-à-dire par les infracteurs, pour pouvoir donner une apparence de la légalité ou de la légitimité de leur comportement. Ça a été clairement dit par Maître Ruffin Louko. Alors ça, c'est pour essayer de dissiper les nuages qui semblaient couvrir la face de notre ami qui a posé une question de savoir s'il s'agit du trafic d'enfants comme sujet ou d'adoption.
Voilà.
Voilà, c'est comme ça. Donc on ne peut pas parler du trafic d'enfants sans évoquer la ruse qu'utilisent les délinquants. Voilà, ils passent par l'adoption, parce qu'ils savent que l'adoption est judiciaire essentiellement. Alors il faut obtenir l'adhésion du juge, mais pour finalement aller changer de comportement. En ce qui concerne...
Elodie qui a demandé que l'État interdise carrément l'adoption par les étrangers, les enfants congolais par les étrangers.
Ok, l'État a déjà prévu des dispositions. Quand nous lisons la loi portant protection de l'enfant, dans ses articles 18 à 20, nous allons nous rendre compte qu'il existe déjà l'adoption nationale. L'État n'a pas interdit aux nationaux d'adopter. Ça existe, les cas d'adoption nationale. Mais le point se pose souvent dans les adoptions internationales, parce que là, les enfants sont transportés en dehors de nos frontières, ce qui rend un peu difficile le suivi, le contrôle de ces enfants-là. Mais nous devons aussi noter que aussi bien l'adoption nationale qu'internationale sont autorisées, mais au niveau international, la difficulté de contrôler se pose. C'est ainsi que l'on a eu à entreprendre quelques ateliers ici au niveau du Congo et au centre Wallonie-Bruxelles avec le président Mpoto Iloua en présence de la ministre belge de la communauté française Wallonie-Bruxelles, voilà, pour voir dans quelle mesure les États peuvent coopérer en cette matière d'adoption internationale et sécuriser ces enfants-là qui partent au premier abord comme pour être aidés, comme pour trouver des familles de substitution par rapport aux familles soit dont ils sont dépourvus, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont des familles qui sont adoptées, il y a aussi des enfants qui sont sans repères familiaux, mais qui peuvent être adoptés, et dans ce cas-là le juge joue un rôle prépondérant en cette matière.
Alors monsieur Com, est-ce que la loi sanctionne de la même manière les Congolais et les étrangers qui tombent sous le coup de cette infraction du trafic de vente d'enfants?
Oui, de la même manière. Pourquoi? Parce que la loi a un caractère impersonnel, général et abstrait, ainsi que tant d'autres caractères. Donc que vous soyez étranger, que vous soyez un national, vous êtes tous égaux devant la loi. Et là, le juge est impartial. Et le juge congolais sanctionne de la même manière les contrevenants, les infracteurs, sans tenir compte de race. Parce que si le juge doit s'en référer à la race, ça devient une discrimination.
D'accord.
C'est interdite.
Voilà.
Alors, s'il vous plaît, je voulais aussi dire un mot sur le recrutement d'enfants à travers les organisations ou les organismes.
Rapidement, en quelques secondes.
Etc. Oui. Lorsque les services là des Nations Unies prennent les enfants et les amènent à l'étranger pour les faire étudier, il n'y a pas de mal en cela parce que il s'agit là des enfants qui semblent être en situation difficile, comme le prévoit l'article 62. Alors, l'article 63 de la loi portant protection de l'enfant, qui prévoit aussi des solutions, fait quoi? Il dit qu'il faut trouver des cadres familiaux, c'est-à-dire des cadres qui ressemblent à la famille, milieu, cadre idéal, afin de faire accéder ces enfants aux services sociaux de base. Et Maître Ruffin Louko a évoqué ça en disant que c'est justement pour essayer d'assister ces personnes-là qui sont en situation de vulnérabilité. Et il faut leur offrir un bon logement, c'est-à-dire le logement décent, leur assurer une bonne alimentation, la scolarité, parce qu'il faut combattre l'analphabétisme, mais aussi les aider à pouvoir accéder aux soins médicaux. Et comme ça, on va assurer leur survie et leur garantir une vie de qualité. Là, il n'y a pas d'anormalité, il n'y a pas
Il n'y a pas d'anomalie. Voilà, merci.
Justement, lorsqu'on change, voilà. On change in fine l'orientation. Voilà. Parce que l'intention est souvent cachée.
D'accord. Merci, M. Kom Soulouku. Je rappelle que vous êtes assistant du président du tribunal pour enfants de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs. Et à la prochaine.
Moi, je vous remercie.
Voilà, on va aussi conclure avec Maître Yvain Loco. Vous avez suivi la question d'Elodie. Ça, il a parlé de son frère qui a un ami en Europe qui est très âgé et qui lui envoie des petits colis à tout moment. Et après ses études, voilà, tu viens de ses côtés. C'est une forme de trafic.
Évidemment, Elodie, il faut qu'on vous précise que l'enfant ne pourra pas partir s'il a moins de 18 ans. Et si cette maman-là, soi-disant correspondante, n'est pas venu lui-même la
prendre. C'est fréquent, hein, il y a des gens qui ont des correspondants comme ça.
Les oui, c'est-à-dire avec le Facebook, les réseaux sociaux, tout le monde a des correspondants. Mais comment sortir du territoire, aller trouver un correspondant qui n'a pas fait les démarches pour
mais il y a certains correspondants qui envoient de l'argent après pour à un jeune homme et quand tu vas là-bas, tu deviens son mari.
Ça peut être
une vieille dame.
Oui, c'est une vieille dame, une très vieille dame. Donc, ça se passe très souvent et que c'est pourquoi la DGM est prise dans. Il faut donc des mesures de sécurité.
Ah, mais ça, il ne s'agit pas d'un trafic.
Non, mais ça n'est un. Bon, peut-être le trafic, c'est à grande échelle. Mmh. Mais celui-là aussi, c'est un petit frère du trafic. Ça veut dire cette façon-là, de convertir une adoption par. Et c'est ce que la loi congolaise, le code de la famille, avait interdit. Ça veut dire que ça ne se passe pas, soit disant, par adoption, pour aller constituer un mariage, un inceste et consort.
Un jeune homme qui va épouser une vieille dame.
Et consort, et vice-versa.
Et vice-versa.
C'est des choses, c'est là que le législateur a visé pour interdire. Donc, la dame et madame Elodie ne pourra avoir votre fille, votre petit frère et petite sœur, que lorsqu'elle-même se déplacera pour venir faire respecter les choses ici. Parce qu'on ne peut pas exposer cet enfant à partir,
On n'a plus assez de temps. Merci, je rappelle que vous êtes juriste et chercheur et écrivain en droit. Merci, à la prochaine.
Je vous en prie.